Ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est tout simplement que Dieu se sert des choses faibles pour confondre les fortes. Dieu se sert des choses folles pour confondre les sages. Dieu se sert des choses petites qui semblent insignifiantes au regard humain pour confondre et faire tomber les forteresses humaines. Paul l'explique bien dans son texte, la première lettre qu'il a écrite aux chrétiens de Corinthe. Chapitre 1er, à partir du verset 18, nous allons lire d'abord tout simplement le verset 18 et 19, et après nous lirons le verset 26-27. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Verset 26. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. » Mais que seul Dieu soit glorifié. Peut-on dire Amen ? Que seul Dieu soit glorifié. Nous avons lu ce passage de l'évangile de Jean. Pourquoi ? Parce que nous avons là, pour moi, un exemple clair, net, précis, et qui met en valeur la gloire de Dieu, qui nous montre bien que Dieu se sert des choses faibles pour confondre les fortes. Nous avons un récit qui nous est donné dans tous les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais seul l'évangile de Jean nous donne cette précision, c'est qu'à un moment donné, alors que Jésus a posé la question, « Où achèterons-nous des vivres, des pains ?» Pour cette foule qui est affamée, Jésus a posé cette question. Et Philippe arrive et lui dit, « Il y a un jeune garçon. » Voilà un détail qui n'est pas dans les autres évangiles, un détail qui doit nous bouleverser ce soir, un détail qui doit nous amener à comprendre que Dieu se sert des choses faibles pour confondre les fortes. Dieu se sert des petits pour faire tomber les grands. Dieu a utilisé un jeune garçon qui n'avait que 5 pains d'orge et 2 poissons pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Vous imaginez ? À mon avis, ça fait au moins de 10 000, 15 000 et même certainement plus. Certes, nous n'avons pas le nombre, mais ça fait plus de 5 000, c'est sûr. 5 pains d'orge et 2 poissons. Et ce message n'est pas là pour que nous entrions dans des détails complexes de la théologie, mais que nous ressortions tous en se disant à nous-mêmes, je suis peut-être faible, mais Dieu peut se servir de moi pour faire de grandes choses. Je me sens peut-être petit, je me sens incapable, mais la Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Donc si tu es faible, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Paul a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. D'ailleurs, nous l'avons chanté. Alors, si vous l'avez chanté, vous devez le proclamer et le vivre avec une foi forte. Quand tu es faible, c'est là que tu es fort. Quand tu viens humble devant le Seigneur. Et nous avons besoin là d'un véritable équilibre. Peut-être il y a des gens qui sont là et qui se dévalorisent, qui se culpabilisent. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre dans le péché, il faut le régler. Mais quelqu'un qui vient, qui se repent devant Dieu, il a la révélation, c'est vrai, qu'il était misérable et que Dieu l'a sauvé, mais il doit aussi avoir la foi. C'est-à-dire que la vertu de l'humilité doit rencontrer la vertu de la foi. Et à ce carrefour, Dieu va utiliser la personne pour faire des miracles. L'humilité, certes, j'étais misérable, Dieu est venu à mon secours. Mais la foi, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et s'il y a des choses impossibles aux hommes, tout est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est ce qui nous est donné d'ailleurs dans la conclusion de la parabole du jeune homme riche. Et nous avons besoin de cet équilibre, tout à fait. Je donne ce témoignage, c'est très court. Une personne dit, j'ai compris ma misère quand je me suis converti. Quelqu'un d'autre disait, j'ai beaucoup pleuré devant la croix. J'ai noté une autre personne qui disait « Je me suis senti noir, sale. » Quelqu'un disait « Je me suis senti si faible, si petit, si misérable. » Quelqu'un disait « Pour moi, j'ai trouvé que j'étais complètement incapable. » quand Dieu m'a ouvert les yeux sur ma misère, sur mon péché. Dieu m'a montré ces choses, mais j'ai compris aussi que tout est possible à celui qui croit. La foi s'inscrit dans cet équilibre, l'humilité, mais aussi la foi. Et si tu restes simplement dans ta misère en disant « je suis misérable », tu resteras à terre. Et si peut-être tu es là en disant « je suis capable », tu n'avanceras pas non plus. Parce que la parole de Dieu nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Et il nous faut cet équilibre. Impossible d'avancer dans la foi, de voir les miracles, d'être utilisé par Dieu si on n'a pas cet équilibre, l'humilité et la foi. Ma propre mamie est une spécialiste pour apprendre aux enfants à faire du vélo. Un jour, une de mes petites cousines n'arrivait pas à apprendre à faire du vélo. Ses parents l'ont conduite chez ma grand-mère en lui disant « tu n'y arriveras pas, personne n'a réussi ». Elle avait tellement peur de tomber, tellement peur de la vitesse. Alors ma mamie l'a prise entre elles deux, entre quatre yeux. Elle a parlé avec elle, elle a aidé. Et puis elle a eu du mal, mais au bout de deux jours, elle a réussi à lui faire faire du vélo. Alors tout le monde a été intrigué, est allé la voir. « Mais comment tu as fait ?» Elle a expliqué, elle a dit « c'est pas compliqué ». Elle avait tellement peur que vous avez essayé de lui apprendre sur place. Mais moi, j'ai d'abord aidé Sophia, elle s'appelle Sophia, à vaincre sa peur de la vitesse. Je l'ai accompagnée et puis après, elle a pris de la vitesse. Mais elle ne pouvait pas garder l'équilibre si elle restait sur place. D'ailleurs, je vous mets à défi d'essayer de faire du vélo sur place et de garder l'équilibre. À part les spécialistes, ce sera très difficile. Mais le seul moyen de garder l'équilibre, c'était d'avancer. Le seul moyen. Et mon frère, ma sœur, si tu te crois faible, c'est vrai, mais si tu restes dans ta faiblesse, tu n'avanceras pas. Mon frère, ma sœur, si tu te crois trop fort, tu n'avanceras pas non plus. Le seul moyen d'avancer, c'est d'avoir l'équilibre. Le seul moyen d'avoir l'équilibre, c'est d'avancer. C'est de marcher, d'aller de l'avant. Lève-toi ce soir. Nous l'avons chanté. Lève-toi, femme de vérité. Lève-toi, homme de foi. Tu es fort quand tu es faible. Quelqu'un est-il faible? Rappelle-toi que si tu es à Christ, en lui, tu as été sauvé. En lui, tu es racheté. Paul dira aux Éphésiens, en lui, nous avons été réconciliés. En lui, nous sommes justifiés. En lui, nous sommes de nouvelles créatures. Donc ne vivons pas sur les choses anciennes et passées. Tu as péché, relève-toi, demande pardon, repens-toi, mais avance. Marche dans la foi, enracine-toi dans les mains du Seigneur. Et là, nous avons ce texte de l'évangile de Jean que j'ai pris. Pourquoi? Parce que nous avons un jeune garçon qui est là et qui vient avec ce qu'il a, ce peu qu'il a. Mais Dieu va en faire quelque chose de grand. Il va réussir à nourrir toute une foule. Mes frères et sœurs, n'y a-t-il pas une foule à Toulouse? N'y a-t-il pas une foule de Toulousains qui ont besoin de recevoir la nourriture spirituelle et d'être sauvés? Cette foule suivait Jésus. Et si Jésus n'avait pas fait ce miracle, il y aurait eu des morts. Parce qu'il le suivait. Depuis plusieurs jours, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, et ils n'avaient plus à manger. Et Jésus, quand il fait ce miracle, non seulement il donne à manger, mais il redonne la vie. Il fait ce miracle et je crois qu'aujourd'hui, dans notre monde contemporain, dans notre société, au 21e siècle, à Toulouse, Jésus voudrait que des milliers d'âmes aient la nourriture spirituelle, le pain de vie. Qui viendra? Qui aura ces 5 pains et ces 2 poissons? Jésus repose la même question qu'il a posée aux disciples. Où achèterons-nous des pains pour que tous ces gens aient à manger? Le Seigneur peut se servir des choses faibles. Il suffit qu'il souffle par son esprit. Alors, tout va changer. Et j'aimerais vous dire que tout cela n'est d'abord que le commencement de grands miracles, non pas par nos propres forces, mais d'abord parce que Dieu le veut, par son amour. C'est d'abord sa compassion qui a poussé à ce que cette foule soit nourrie. C'est la compassion du Seigneur qui désire que des hommes et des femmes soient sauvés autour de nous, qui désire donner à manger spirituellement ce pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité et glorifié aujourd'hui à la droite de Dieu le Père. C'est sa compassion et son amour pour l'homme qui le pousse à désirer que tous les Toulousains, puisque je parle pour nous, aient aujourd'hui accès à ce pain de vie. C'est d'abord son amour, qui veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa pure volonté. Jésus agissait d'abord par pure compassion. C'est extraordinaire de voir tous les textes qui montrent que Jésus agissait par pure compassion. Dans Matthieu 9, 36, il nous est dit que la foule, les foules le suivaient, mais que Jésus lui-même, non seulement les foules le suivaient, mais Jésus lui parcourait toutes les villes, les villages, les contrées. Il faisait des miracles. Il guérissait tous les malades et il enlevait toutes les infirmités. Et c'est à ce moment-là, il nous est dit que Jésus va porter ce regard sur cette foule qui le suivait à cause des miracles. Et il va être ému de compassion, voyant la foule, parce qu'elle était comme une foule abattue et languissante, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et c'est pour ça que Jésus fut ému de compassion. Et c'est à ce moment-là, dans ce contexte, que Jésus donne cette parole, « Priez, parce qu'il y a peu d'ouvriers dans la moisson. » La moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers, il faut prier. Jésus était ému de compassion. Juste après la mort de Jean-Baptiste, dans Matthieu 14, Jésus est ému de compassion, voyant la foule. Quand elle est affamée, Jésus est ému de compassion. Dans une parabole où Jésus veut remettre, nous montre qu'il est le maître qui veut remettre la dette à celui qui vient en essayant de payer, ému de compassion, le maître remit la dette. Peut-être quelqu'un est là ce soir et se dit « Oh oui, mon voisin, qu'est-ce qu'il attend pour se lever » Qu'attend-il ? C'est à toi que Jésus parle. Et Jésus voudrait d'abord te remettre ta dette. Il est ému de compassion pour toi. Il est ému de compassion pour nous. Je dirais même, il est ému de compassion pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Il était ému de compassion pour ces deux aveugles qui sont venus vers lui et qui ont crié « Jésus, fils de David, aie pitié de nous !» Ému de compassion, Jésus va les toucher, leur rendre la vue. Que voulez-vous que nous recouvrions la vue ? Ce lépreux dans Marc 1, 34 qui vient. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus était ému de compassion. Je le veux, sois pur. Bien des miracles, bien des guérisons ont été faites par Jésus, poussées par sa compassion. Des entrailles de miséricorde, comme cette femme, veuve de Naïn. La veuve de Naïn qui perd en plus son fils, fils unique. Mais Jésus croise ce cortège, il est ému de compassion et il lui dit « Ne pleure pas ». Le fils prodigue, il nous est dit que quand le père va le revoir, il va être ému de compassion. C'est aussi là l'image de Dieu qui est ému de compassion quand quelqu'un revient à lui. Si quelqu'un n'a pas réglé aussi sa vie devant Dieu, Jésus est ému de compassion. Et Jésus veut te sauver. Si quelqu'un revient à lui, Jésus est ému de compassion, il veut t'accueillir. Si quelqu'un a faim et soif, Jésus est ému de compassion. Sachez qu'il est plein d'amour. Ce terme « ému de compassion » signifie « brûler de tendresse envers ceux qui sont dans la difficulté, dans la souffrance et dans la douleur ». Ému, brûler de tendresse, mais aussi mettre en application quelque chose pour les sauver, comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 13. Est-ce que nous craignons Dieu ? Est-ce que nous avons l'amour de sa parole ? Est-ce que nous avons le désir de le voir agir et de le voir nous utiliser comme ce jeune garçon pour nourrir toute une foule ? J'aimerais rapidement dire qu'il y a un obstacle à la bénédiction, c'est l'orgueil. Oui, Dieu se sert des choses faibles, donc il faut se sentir petit et faible. Et si quelqu'un vient avec ses propres capacités, il est déjà un obstacle parce que Dieu a dit qu'il résiste aux orgueilleux. Jacques 4, 6. Mais il fait grâce aux humbles. Le premier à avoir fait les frais de l'orgueil, c'est Lucifer. Et c'est lui qui est à la base de la rébellion et de l'orgueil. Dans Isaïe 14, il nous est donné toute une explication, justement d'une sentence prophétique donnée sur Lucifer. Ta magnificence a été précipitée dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes, de tes cantiques. Tu as été précipité, tu as été abattu à terre et tu es recouvert de verre. Tu as une couverture de verre. Il a été précipité. Tu as été précipité, te voilà tombé. Toi, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Voilà une parole qui a été prononcée contre Satan quand il a été orgueilleux. D'ailleurs, le prophète Ésaïe le dit, tu croyais monter au ciel. Tu t'es dit, je monterai au ciel, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. mais tu as été précipité. Ça a été déjà le début de l'orgueil. C'est lui qui a mis l'orgueil dans le cœur de l'homme. Mon ami, mon frère, ma sœur, ne croyons pas que nous sommes quelque chose. Le psalmiste le dira, on n'est qu'un souffle qui passe et qui ne revient pas. Ce qu'il désire, c'est que nous revenions avec des cœurs humbles. Et l'humilité, c'est quelque chose qui se voit au travers du fruit, la manière dont on parle. Mes frères à votre épouse, mes frères à vos enfants, mes sœurs à votre époux, à ceux qui sont autour de nous. Quand il y a de l'orgueil, on est au-dessus des autres. On croit qu'on est au-dessus des autres. On croit que l'on peut parler comme on veut. C'est faux. La parole de Dieu nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Et si quelqu'un croit qu'il est capable, si quelqu'un s'amuse à juger un autre, à mépriser quelqu'un, à critiquer, calomnier, la parole de Dieu veut te donner un réel avertissement ce soir. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. C'est comme ça que Lucifer est tombé. C'est comme ça que Nebuchadnezzar est tombé. Il avait fait un rêve et il avait dit « J'ai vu un arbre. J'ai vu un arbre fort, grand, puissant. Il grandissait, s'assime et montait jusque dans les cieux. Les oiseaux venaient s'y abriter, ils faisaient leur nid et tous les animaux venaient au-dessous de lui. Tous les êtres vivants tiraient leur nourriture de cet arbre. Il était fort et grand, même ses branchages se voyaient jusqu'aux extrémités de la terre. « Mais je suis troublé, » dit Nebuchadnezzar. « Il est épouvanté, il est effrayé. » Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a vu aussi dans ce rêve que l'un de ceux qui veillaient, un ange, ceux qui faisaient partie des saints descendit des cieux et qu'il a prononcé cette parole « Abattez cet arbre, abattez-le, détruisez-le, ne gardez que le tronc, mais liez ce tronc de chaînes de fer. » Daniel arrive, le roi est épouvanté, il est effrayé. Qu'est-ce que veut dire ce songe ? Daniel lui dit, voici le décret du Très-Haut. Cet arbre, c'est toi, ô roi. Et c'est ce qui va se passer à cause de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et j'aimerais vous dire que nous avons là, dans ce texte de l'Évangile, un bel exemple de ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui est homme. Ce jeune garçon, vous ne croyez pas qu'il aurait pu dire, moi j'ai ce que les autres n'ont pas ? Mais il est venu apporter ce qu'il avait. Il aurait pu dire, je garde mes 5 pains et mes 2 poissons pour moi et ma famille. Parce que pour 5 000 hommes, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qui va me rester si on le divise ? Qu'est-ce qui va me rester ? Une petite miette. 5 pains et 2 poissons divisés par 5 000. Je vous laisse faire le calcul. Mais ce jeune garçon, il n'a pas dit, j'ai ce que les autres n'ont pas. Il aurait pu dire, moi j'ai prévu mon casse-croûte. Moi, j'ai prévu mes 5 pains et mes 2 poissons. Ils auraient dû le prévoir. Mais combien peut-être même dans la maison du Seigneur, parfois, nous disons, moi, j'ai ce que les autres n'ont pas. Moi, j'ai reçu ce que les autres n'ont pas. Moi, je ne suis pas comme les autres, comme ce publicain qui se levait et qui priait, Seigneur Dieu, je te prie de ce que je ne suis pas comme l'autre. Eh non. Et le Seigneur, il nous dit, c'est pas toi que je vais exaucer. Il nous montre celui qui est humble et qui dit, Seigneur, malheur à moi. Et qui se frappe la poitrine. L'humilité qui précède la gloire. Ce jeune garçon. Un jeune garçon, je voudrais vous dire, qui est anonyme. Anonyme. Vous connaissez le nom de ce garçon ? Moi non. Anonyme, et pourtant je suis convaincu un héros de la foi. Il a eu la foi, il est venu, il a porté ce qu'il avait. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire juste avec ce que ce petit garçon avait. Dieu a fait plus grand avec ce que ce garçon lui a apporté qu'avec tous les hommes les plus célèbres du monde. Il y a des grandes célébrités, des grands noms sur toute la terre. Mais Dieu peut faire beaucoup plus avec un jeune garçon, une jeune fille, quelqu'un qui vient humblement et qui dit « Seigneur, je suis anonyme, mais je t'apporte ma vie. » Jeune garçon anonyme. Cela nous rappelle les souvenirs, le Saint-Esprit nous pousse à revenir un peu en arrière. Quelques plus de 1000 ans en avant, un autre jeune garçon qui au départ était anonyme. C'est vrai, il était dans les prés, il gardait les brebis. On ne s'occupait pas trop de lui. Personne ne le connaissait, si. J'ai réfléchi, j'ai trouvé quelqu'un qui le connaissait. Le lion et l'ours le connaissaient. Le lion et l'ours, eux, ils savaient qui était David. Les gens ne savaient pas. Éliab ne savait pas. Éliab, son grand frère, il le méprise. Saül, le roi, il dit, mais tu n'es qu'un enfant. Goliath, le Philistin, il se moque de lui. Et même le père de David, Isaïe, qui connaît la loi de l'Éternel et qui fait partie du peuple de Dieu, l'a oublié. David est au début anonyme, il est oublié de tous. Mais que peut faire Dieu avec un jeune garçon rempli de l'Esprit de Dieu? Il fait tomber les hauteurs et les forteresses. Goliath était une hauteur, Goliath était une forteresse, Goliath terrifiait tout le monde. Mais David, rempli de l'Esprit de Dieu, va être utilisé par le Seigneur, utilisé par le roi des rois pour faire tomber cette forteresse. Goliath n'était pas grand, Goliath était haut, mais David était grand. Parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Peut-être quelqu'un se dit, mais moi je suis faible. David était le plus petit de tous ses frères. Le Seigneur veut t'utiliser. Il désire simplement que tu lui donnes ta vie. Si tu fais comme ce jeune garçon, apporter ce que tu as pour donner à manger aux gens qui sont autour de toi, pour arracher une âme à l'enfer, pour prier et voir ta prière efficace toucher un cœur, tu fais plus que les plus grandes œuvres de toutes les célébrités de ce monde. Certes, tu es anonyme, mais là-haut, tu auras un nom nouveau. Un nom glorieux, un nom céleste. Et ce jeune garçon n'a pas dit « Oh, ça ne sert à rien d'apporter mes 5 pains et mes 2 poissons ». Vous voyez, dans un premier temps, il aurait pu dire « Moi, j'ai ce que les autres n'ont pas ». Il ne l'a pas fait. Il n'a pas eu d'orgueil. Et dans un deuxième temps, il aurait pu aussi faire ce que certains font, ils s'autoflagellent et ils se méprisent. Et ils se méprisent jusqu'à dire, eh bien tant pis, je ne peux pas servir, je ne peux rien faire pour le Seigneur, je suis trop faible, je suis incapable. Et il aurait pu dire, je suis un jeune garçon, personne ne me connaît, qui je suis pour aller voir les disciples? Et je n'ai que 5 pains et 2 poissons, ça ne sert à rien, je ne vais pas y aller. Non, il n'a pas fait cela, il a apporté ses 5 pains et ses 2 poissons. Et qu'a fait Jésus avec cela? Extraordinaire. Qu'aurait fait Jésus s'il n'avait pas eu ses 5 pains et ses 2 poissons? Jésus a toujours recherché les choses faibles pour confondre les fortes. Et ce jeune garçon est venu. Il est venu et Dieu a pu faire un miracle parce qu'il donne tout. L'important, ce n'est pas de savoir si on est capable ou pas capable. Non, c'est de réaliser, certes, qu'on est faible. Certes, qu'on est misérable, mais Jésus est venu. Mais l'important, c'est d'avoir la foi que tout est possible à celui qui croit, et dire, eh bien, je te donne tout. J'ai peu, mais le peu que j'ai, je te donne. Il avait peu, mais le peu qu'il avait, il a donné au Seigneur. Et le résultat, c'est quoi? C'est le miracle. Il aurait pu garder une partie, mais il a tout donné. Ce soir, ça, c'est une autre parole pour quelqu'un. Dieu veut te dire, donne-moi tout ton cœur. Donne-moi toute ta vie. Donne-moi toute ton âme. Donne-moi toute ton existence. Donne-moi tous tes projets. Il y a quelqu'un ici dans ce lieu qui dit, moi j'ai donné ma vie au Seigneur, et c'est faux. Jésus te révèle que c'est faux. Parce que quand il s'agit de jeûner, tu ne veux pas jeûner, parce que tu n'as pas tout donné. Quand il s'agit de prier, tu n'as pas envie de prier, parce que tu n'as pas tout donné. Quand il s'agit d'éteindre la télévision devant une image qui ne plaît pas, qui n'est pas la gloire de Dieu, tu n'y arrives pas, parce que tu n'as pas tout donné. Ce jeune garçon, il est venu, il a tout donné. Pourquoi Dieu ne t'utilise pas? Il faut d'abord que tu donnes tout. Pourquoi tu es encore dans ton mal-être, assis entre 2 chaises? Il faut d'abord que tu donnes tout. Le Seigneur voudrait que tu lui donnes tout. Pourquoi donc nos prières parfois sont « donne-moi, donne-moi, bénis-moi, bénis-moi » et on oublie carrément l'Église persécutée? Parce qu'on n'a pas tout donné. Et si on donne tout, le Saint-Esprit nous montrera et orientera nos prières aussi différemment. Pourquoi parfois le Seigneur nous dit « passe par ce chemin, passe par cette épreuve » et on ne veut pas, parce qu'on n'a pas tout donné. On n'a pas tout donné. Mon ami, mon frère, ma sœur, je t'en supplie au nom de Jésus, donne-lui tout ce soir. Jésus va faire un miracle extraordinaire. La conclusion de ce jeune garçon qui vient simplement, c'est un miracle, c'est une foule nourrie. C'est des âmes sauvées, c'est des miracles qui vont continuer et c'est même des restes. La parole de Dieu nous dit qu'il est celui qui fait infiniment, au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que même tu peux imaginer. Dieu le fera, mais il faut d'abord que tu donnes tout. Tu viens et si le Seigneur souffle sur ta vie, si tu es prêt à dire « je veux être rempli du Saint-Esprit, je veux être baptisé du Saint-Esprit pour témoigner de toi, pour être ce témoin, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins ». Il faut d'abord recevoir cette puissance, cette personne, Saint-Esprit, qui vient, qui nous remplit, qui nous sonde, qui nous dirige. Et ce jeune garçon, j'aimerais vous dire, je suis convaincu qu'il était conduit par Dieu. C'était le plan de Dieu et un jeune garçon, une jeune fille. Je dis jeune, mais je pense que c'est pour tous, parce qu'on peut aussi avoir gardé la mentalité jeune, qui est rempli et conduit par le Saint-Esprit, il peut être utilisé pour que des milliers d'âmes soient sauvées, sans forcément qu'il ne le sache, parce que la gloire elle revient à Dieu, mais par ses prières, sa consécration, son témoignage et ce que Dieu va lui donner de faire. Je lisais un témoignage dernièrement, je l'ai partagé à quelques-uns. Augustin González a été incarcéré dans la prison de Veracruz au Mexique. Il a été un truand, un brigand. Mais cet homme a reçu le Seigneur dans son cœur. Il a beaucoup pleuré. Ses copains de cellule se moquaient de lui. Pendant 5 jours, il a pleuré. Il avait la serviette sur la tête pour que personne ne le voie et ne se moque de lui. Mais il se moquait quand même. Le résultat, c'est que quelque temps après, avant qu'il sorte, il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas sortir plus tôt. Il y avait des jugements qui devaient être donnés et il n'a pas pu sortir plus tôt. Mais il a compris beaucoup plus tard. Parce que pendant ce temps d'emprisonnement où il a dû aller jusqu'au bout de sa peine, il a amené 27 compagnons de cellule à la fois. Et pourtant, il aurait pu dire « Je suis trop misérable, j'ai fait des choses trop graves pour que Dieu se serve de moi, donc je ne fais rien. » Mais non, il est venu tel qu'il était et il a dit « Prends-moi 27 compagnons de cellule. » Gloire à Dieu. Dieu se sert des choses faibles pour confondre les fortes. Je lisais un autre témoignage, c'est un jeune garçon de 14 ans. J'ai beaucoup aimé ce témoignage parce qu'il a reçu une Bible, hein, c'est son foyer, ses parents ne connaissaient pas Dieu. Il a reçu une Bible à la maison. Ses parents, bien sûr, l'ont mis de côté, mais lui, il a regardé, il était intrigué. Il a lu, et à force de lire l'Évangile, il s'est converti. Mais une vraie conversion. Il a recherché le Saint-Esprit sans avoir d'enseignement. 14 ans. Rempli du Saint-Esprit, au bout de quelques mois, il avait amené 5 de ses compagnons d'école au Seigneur. Alors il a réécrit, c'est pour ça qu'ils l'ont su, à la société qui lui avait envoyé les Bibles. Il leur a dit, envoyez-moi encore des Bibles, s'il vous plaît. Et c'est là qu'il a été mis en contact et qu'il a appris qu'il y avait des églises. Comment Dieu peut utiliser quelqu'un de faible, mais rempli du Saint-Esprit, où le Seigneur va souffler et va nous utiliser. Ce petit garçon avait quelque chose que les disciples n'avaient pas. Oui, 5 pains et 2 poissons. Ce petit garçon a pu répondre à une question que les disciples n'ont pas pu. Où achèterons-nous des vivres? Tiens, où achèterons-nous des pains? Où achèterons-nous le Saint-Esprit? Rappelez-vous, les vierges, 10 vierges, 5 folles, 5 sages. La parabole. Et quand l'époux vient, 5 sont prêtes et les 5 autres, elles s'entendent de dire « Allez acheter ». Mais c'est trop tard, il fallait acheter avant. Frères et sœurs, le Seigneur vient bientôt. C'est l'heure d'acheter. Et le Seigneur dit au travers du prophète Ésaïe « Venez et achetez sans rien payer ». Ça veut dire qu'il y a un prix à payer, la consécration, un cœur entier, sans payer humainement. Pas besoin d'amener nos billets, pas besoin de donner nos sous, on n'achète pas le salut, mais on donne tout notre cœur et le Seigneur se sert de nous. Et si on a le cœur rempli du Saint-Esprit, si l'huile de l'onction du Seigneur coule sur nous, alors des choses vont changer d'abord dans notre vie, puis tout autour de nous. Puissions-nous être comme ce jeune garçon qui est venu, 5 pains et 2 poissons. Nous allons courber nos têtes, s'il vous plaît, courber nos fronts. J'ai à cœur de ne pas aller plus loin, de m'arrêter là, mais d'interpeller quelqu'un. Quelqu'un peut-être qui reste sur ses acquis et peut-être qui se croit encore trop fort, qui a besoin de s'humilier devant Dieu pour que son cœur change. Sinon, c'est un avertissement solennel que le Seigneur te donne, quel que soit le service que tu as, quelles que soient les capacités que tu as. Tu peux perdre ta vie, tu peux même perdre ton salut. Seigneur te rappelle, c'est l'humilité qui précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute et Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a peut-être quelqu'un qui est tombé dans l'excès inverse et qui est là à se mépriser, se culpabiliser. Le Seigneur dit, lève-toi, homme de foi, lève-toi, femme de vérité, viens là et sois rempli du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous montre combien Dieu a utilisé des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur utilisera ta langue. Peut-être quelqu'un se dit « Je suis trop timide », mais j'en connais un autre qui s'appelait Moïse et qui était trop timide et qui a été pourtant le libérateur. Quelqu'un se dit « Je ne peux pas parler autour de moi, je suis trop timide », mais nous connaissons Pierre et Jean qui ont dit à cette boîte « Lève-toi et marche », et il s'est levé, il a été guéri. Des paroles portées par le Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu veut faire dans nos vies. Sommes-nous prêts à dire « Je suis faible, mais tu peux confondre les fortes, les forteresses autour de moi. Me voici. » Père, nous sommes devant toi et nous disons tous « Nous voici. » Nous sommes tous faibles. Quand tu es venu nous chercher, nous étions vraiment misérables. Aujourd'hui, nous pouvons attester que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais que dans ta grâce, tu nous as rachetés et appelés enfants de Dieu. Tu nous demandes de nous lever et par la foi de nous approcher, de nous laisser remplir du Saint-Esprit, touchés par le Saint-Esprit, de désirer être baptisés du Saint-Esprit pour être utiles entre tes mains, pour que ces foules viennent à la connaissance de la vérité. Comme ce jeune garçon, nous venons vers toi, Seigneur. Comme lui, nous désirons être utiles entre tes mains. Et le peu que nous avons, nous te le donnons. Amen. Restons recueillis quelques instants, s'il vous plaît. Il y a peut-être quelqu'un qui est jeune, comme ce jeune garçon. Dieu t'appelle. Jeune comme tu es, Dieu t'appelle. Et avec toi, il confondra des forteresses. Il y a peut-être quelqu'un qui est jeune dans la foi et qui dit, « Oui, moi aussi, je suis un jeune garçon dans la foi. » Une jeune fille dans la foi, je suis baptisé depuis si peu. Le Seigneur veut t'utiliser, car il choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Il y a peut-être quelqu'un qui est converti depuis longtemps, mais qui a besoin de rajeunir comme l'aigle et d'être rempli du Saint-Esprit pour que ses paroles aient le même effet que les paroles de Pierre qui ont dit à ce boiteux, « Lève-toi et marche. » Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle.